Salut à tous et bienvenue sur Archéociné. Archéociné, le podcast qui déterre les pépites du grand écran. Et oui, les triple A ont eu aussi leurs heures de gloire, du moins pour ceux qui ont eu, pour les films qui ont entre, on va dire, 10, 20 et 40, 50 ans. Et avec nous ce soir, il y a Blood qui nous a rejoint. Comment ça va, Blood?
Salut à tous, très très bien, merci.
Ça fait un moment qu'on n'avait pas enregistré et on pensait pouvoir accélérer le rythme, mais bon, parfois, il en est autrement. Mais voilà, on est ce soir ensemble pour l'épisode 31, un épisode où ça va être un film sympatoche.
Un peu futuriste.
Ouais, avec un peu de bionique, cyborg, etc. Bah allez, ce que je propose, c'est que je mette tout de suite le générique d'intro.
Flash, 3 minutes sur l'essentiel des nouvelles dans le monde.
Bonjour à vous, ici Casey Wong et Jesse Perkins. Premier titre, Pretoria. Ce matin, la menace d'une confrontation nucléaire en Afrique du Sud s'est aggravée. En effet, le gouvernement militaire blanc de la capitale sud-africaine assiégée a déclaré être en possession d'une bombe à neutrons de 3 mégatonnes de fabrication française pouvant constituer le dernier recours dans la défense de la ville.
Durant la première conférence de presse du président sur la plateforme orbitale du système Guerre des Étoiles, un incident dû à une coupure de courant a causé une brève période d'apesanteur sans conséquences notables pour le président et ses conseillers. Quelques messages de publicité.
Et ouais, donc le film commence comme ça, hein, direct cash. C'est Robocop, ce film. Film de 1987, fait par Paul Verhoeven. Voilà, donc c'est pas pour bientôt, hein, mais presque, parce que le film se passe en 2043, hein, aux États-Unis, à Détroit plus exactement, et ça fait le récit un peu d'une société corrompue et gangrénée par une importante criminalité, hein, où les flics aussi sont à moitié, enfin tout le monde est corrompu là-dedans. Et donc du coup, Blood, qu'est-ce qu'on a? Ça tourne autour de quoi l'histoire un peu, le pitch?
C'est un flic donc qui s'appelle Alex Murphy et puis donc il est brutalement assassiné par des membres d'un gang de criminels donc qu'il poursuivait et puis donc pour le ressusciter quoi, mais presque. Il y a des gars qui décident de le transformer en robot policier quoi, le Robocop. Donc par contre lui il va pas se rappeler de son ancienne vie puis donc il va commencer à faire ses enquêtes. Au jour le jour, quoi, sans se rappeler de qui il est réellement.
Jusqu'au jour où.
Ah ah.
Et donc, du coup, tout ça, c'est dirigé par l'OCP. Hein, c'est un important conglomérat militaro-industriel et surtout commercial, parce qu'ils cherchent surtout à gagner du fric. Et voilà, donc, ils cherchent à faire des flics qui soit opérationnel H24, 7 jours sur 7, etc.
Vu la criminalité qu'il y a, quoi.
Ouais, et puis les flics qui commencent à en avoir marre un petit peu de s'en prendre plein la tronche, quoi. Ce que je propose, c'est qu'on se fasse un premier extrait.
Mes amis, depuis plus de 10 ans, je fais un rêve extraordinaire. C'est un rêve que je vous ai invité à partager avec moi. Dans 6 mois, nous commencerons la construction de Delta City sur le site de notre vieille ville de Détroit. Le vieux Détroit souffre d'un cancer. Ce cancer, c'est le crime. Et nous devons l'extirper avant d'embaucher les 2 millions d'ouvriers qui insuffleront la vie dans cette cité. Bravo!
Il a raison.
La nouvelle politique fiscale a créé les conditions idéales pour relancer la croissance économique. Mais les services communautaires dans leur lutte contre le crime, en l'occurrence, laissent à désirer. Il est temps de rétablir l'équilibre en faveur de la loi et de l'ordre. À vous, Dick.
Regardez attentivement les archives de l'OCP. Et vous verrez que nous avons misé sur des marchés traditionnellement connus pour être non lucratifs. Les hôpitaux, les prisons, l'exploration spatiale. Je dis que les bonnes affaires sont là où on les crée. Comme vous le savez, nous avons passé un contrat avec la ville pour gérer la répression criminelle. Mais les chercheurs de ce service sont persuadés qu'une force de police efficace n'est qu'une partie de la solution. Il nous faut quelque chose de plus. Il nous faut un policier qui fonctionne 24 heures sur 24. Un policier qui n'a besoin ni de manger, ni de dormir. Doté d'une grande puissance de feu et des réflexes adéquats. Mes chers collègues, j'ai l'honneur et le plaisir de vous présenter le champion de la sécurité publique. ED-209.
Et ouais, voilà, donc le D209, premier robot flic, on va dire. Et bon, après cette scène-là, ça se passe un peu trop mal parce que le robot va bugger et puis ça va être le carnage. Mais ouais, voilà, donc ça me fait bien rigoler parce que bon, le CP, on voit qu'il baigne dans pas mal de trucs, hein, les hôpitaux, le spatial, la recherche, etc. Et ils disent que c'est des à but non lucratif, mais bon, pour construire tout ça, faut bien avoir de l'argent, et voilà quoi. Mais bon, on poursuit. Allez. Donc, on avait dit que c'était un film réalisé par Paul Verhoeven, hein, où on a un scénario fait par Michael Miner et Edward Neumeier. Musique Basile Paul Douris. Qu'est-ce qu'on a encore? Directeur de la photographie, c'est Jost Vacano. Voilà, donc film sorti en 1987 et qui dure à peu près 102 minutes, quoi. 1h43 pour la version Director's Cuts non censurée. Bon, allez, on va s'écouter un autre petit truc alors. Pour introduire le sujet.
Le coup est faible. Bon. On lui fait un électrochoc.
D'accord. Oui, très bien.
Introduisez le scope dans les tubes et gonflez les masses à 18. Vite.
C'est fait.
Nous allons lui faire un autre électrochoc.
Prêt.
De l'adrénaline, un trop cardiaque.
Adrénaline. Voilà.
Encore. Surveillez la tension.
Arrêt cardiaque.
Essayons un dernier choc. Si ça ne donne rien, on abandonne. Écartez-vous, tout le monde. Écartez-vous. Voilà, on a fait tout ce qu'on pouvait. On ne peut rien de plus. L'heure du décès ?
18h15.
Le poids?
Oui.
Ça défile.
Non, ça marche.
Oh, merde!
Faites-moi voir. Posez la grille. Verrouillez-la. Branchez.
Que se passe-t-il?
Nous avons pu sauver le bras gauche.
Pardon? On était d'accord pour une prothèse organique totale, alors coupez le bras gauche.
Mais enfin, Morton.
Est-ce qu'il peut comprendre ce que
aucune
je dis?
Aucune importance, on va lui effacer la mémoire.
Je crois qu'il faut lui amputer le bras. Qu'en dis-tu, Johnson?
Il a signé une décharge pour léguer son corps à la science. Légalement, il est mort. On est libre de faire ce qu'on veut.
Amputez-le.
On le débranche pour une opération en chirurgie.
Ouais, donc c'est la scène où Murphy se fait transporter à l'hôpital parce qu'il s'est fait tirer dessus à plusieurs reprises par les tueurs de flics là. Et puis du coup après son décès, et il y a son réveil en tant que Robocop. Et donc voilà, donc c'était ce petit extrait là. Sinon, du coup, qu'est-ce qu'on peut dire, Blaud, sur Paul Verhoeven?
Alors, sur Paul Verhoeven, nous pouvons dire que donc il est réalisateur scénariste néerlandais, donc il est né en 1938 à Amsterdam. Donc il y a trois grandes périodes donc pour sa carrière, si on peut dire. Il y a donc aux États-Unis, en Europe un peu plus tard, puis il a commencé aux Pays-Bas. Voilà. Sinon, il était formé pour l'essentiel durant son service militaire au département audiovisuel de la marine néerlandaise. Donc, il a fait des petits documentaires quand il était dans la marine. Voilà. Après, il a fait quelques petits films aux Pays-Bas. Et puis, on l'a tout découvert quand il a fait Robocop en 87. Après, Total Recall en 90, Basic Instinct en 92, Starship Trooper en 97.
Ouais, donc des films pas mal, hein, ça filme.
Et souvent, c'est des films avec une ambiance, c'est souvent spécial, si on peut dire.
Ouais, c'est vrai qu'il y a...
Du hard, enfin du hard, pas parler.
Ouais, il a une réale assez... Une réale assez choquante, on va dire. Ouais. Il aime bien marquer les esprits... avec du trash.
Il y a du sang, oui.
Ouais, ça... Il ne fait pas dans la demi-mesure. Mais c'est des bons films, quoi. Bon, allez, tiens, je te propose un autre extrait.
Nous avons le meilleur de l'homme et de la machine. Les réflexes les plus rapides produits par les technologies modernes. Un ordinateur incorporé, programmé à vie avec les données du maintien de l'ordre en milieu urbain. J'ai la joie immense de vous présenter... Robocop.
Robocop, qui est-il? De quoi est-il fait? De quoi est-il capable? C'est le nouveau policier que l'OCP a créé dans sa croisade impitoyable contre le crime. Tous les porte-paroles du cartel disent que l'androïde sème la terreur chez les voyous de l'ancienne ville. Aujourd'hui, les élèves de l'école élémentaire Yakoka ont pu enfin approcher celui que leurs parents ne connaissent que par les bandes dessinées.
Robot, pardon, excuse-moi, as-tu un message pour les enfants qui te regardent en ce moment?
Soyez sages, les enfants.
Ouais, donc ça, c'est l'extrait. Quand Robocop est vraiment opérationnel, et puis après, on commence à le montrer aux infos, bon, il est encore, on va dire, téléguidé, si on peut dire. Disons qu'il n'a pas ses facultés propres. Puisque encore, son cerveau est guidé encore par son programme et pas par ses pensées d'homme, on va dire. Côté distrib, tiens, allez, on a Peter Weller qui joue l'officier de police Alex Murphy et Robocop. On a Nancy Allen qui joue l'officier de police Anne Lewis. On a Dan O'Herlihy qui joue le président de l'OCP, le vieux Old Man en VO. Ronnie Cox, Richard Dick Jones, qui est le numéro 2 de l'OCP. On a Kurtwood Smith, qui joue Clarence Boddicker. Miguel Ferrer, qui joue Robert Bob Morton. Et Robert Doki, qui joue le sergent Warren Reed. Parle-nous un petit peu de Peter Weller, Blaud.
Alors, Peter Weller, lui, il est né en 47, donc il est né dans le Wisconsin. On a pu le voir en 83 dans Les Aventures de Bukaro Banzai à travers la 8e dimension. Ça, c'est un bon film, c'est bien, c'est spécial, mais c'est quand même sympa comme film. Hein. On l'a vu aussi en 89 dans Léviathan, c'était un film de George Cospatos. En 90, donc dans Robocop 2, et oui, il y a eu une suite donc. 95 dans Planète Hurlante et en 2013 donc dans Star Trek Into Darkness donc de J.J. Abrams. Et puis ensuite on a Nancy Allen donc qui est née en 50. Elle, on l'a vu en 73 dans Carrie au bal du diable.
76, non, plutôt.
Alors, Ronnie Cox, donc le fameux Ronnie Cox, donc de son vrai nom, de Daniel Ronald Cox. Donc, lui, il est acteur, scénariste, producteur américain. Il est né en 38, en 84, dans le Flic de Beverly Hills, en 90, donc, dans Total Recall, en 92, dans Star Trek, la nouvelle génération. Alors, il est dans la saison 6, dans l'épisode 10, je sais pas si on le dit, ça, puis dans l'épisode 11, c'est un épisode, c'est en deux parties. Et puis dans Stargate, la série donc de 98 à 2005, il joue le sénateur vice-président Robert Kinsey.
Ouais. Stargate SG1, parce que comme il y en a eu plusieurs.
Ouais, ouais. Ensuite, pour Kurtwood Smith, donc lui, il est né en 43 dans le Wisconsin. Décidément, ils sont souvent du Wisconsin, hein, dans Robocop. Donc lui, en 88, on le voit dans Rambo 3, il fait Robert Griggs. En 91, dans Star Trek VI, Terre inconnue. En 98, dans Deep Impact. En 96, dans Star Trek Deep Space Nine. En 97, dans Star Trek Voyager. Et puis de 98 à 2006, dans une série qui était marrante, That's 70's Show. Il faisait le père, Red Foreman. Et en 2009, il était dans quelques épisodes de 24 heures. Donc 24 heures chrono, hein. Moi, je disais 24, mais bon.
Ouais, 24. Ouais, bah ça fait du beau monde tout ça. Allez, on va se faire un autre extrait et puis après on va commencer vraiment à parler de tout ce qu'il y a autour du film, parce que je rappelle que le principe, nous on parle pas du film, mais on parle plutôt des anecdotes qu'il y a autour du film, ce qui s'est passé, etc., le casting. Les décors, les costumes et compagnie. Après avoir bien sûr présenté les acteurs principaux et le réalisateur. Allez, un petit extrait tout de suite.
Clarence Bonniquet, au nom de la loi, je vous arrête. Suivez-moi et pas de résistance.
Va te faire foutre. Une minute, bon Dieu! Je suis protégé, moi! Je suis pas n'importe qui!
Vous avez droit à un avocat.
C'est de la connerie! Bordel! Bordel de merde! Écoute-moi! Écoute-moi, putain! Il y a un autre mec! Un autre mec du cartel OCP, c'est le vice-président!
Tout ce que vous direz pourra être retenu contre vous.
C'est Dick! T'as rien compris? Je travaille pour Dick Jones! Richard Jones! C'est le numéro 2 chez OCP! Et l'OCP contrôle la police! Et toi, tu es de la police! Arrête!
Ouais, donc c'était toute cette scène où Bodiker il commence à balancer un petit peu sans se rendre compte des conséquences que ça peut avoir. On a aussi des récompenses pour ce film-là, il y en a pas mal. Qu'est-ce qu'on a ? On a un festival international du film de Catalogne en 87, où il y a eu le prix du meilleur réalisateur pour Paul Verhoeven. On a l'Academy of Science Fiction, Fantasy and Horror Films, Saturn Award en 88. Où on a un Saturn Award du meilleur film de science-fiction, un Saturn Award du meilleur réalisateur pour Paul Verhoeven, du meilleur scénario pour Michael Miner et Edouard Demierre, meilleur maquillage pour Bob Bottin, meilleur effet spéciaux pour Peter Curran, Phil Tippett, Bob Bottin. On a un BMI en 88 aussi pour Basil Paul Duris
pour la musique. Ouais.
On a le Festival international du film d'Avoriaz en 88 où il a eu le prix d'excellence pour les effets spéciaux. Un prix CST pour le Paul Verhoeven, un Oscar en 88 pour une contribution spéciale pour Stephen Hunter Flick et John Pospisil, c'est donc pour le mixage de Robocop. Et on a un Kinema John Poe en 89, prix du public du meilleur film en langue étrangère pour Paul Verhoeven. Bon, puis sinon après, bah du coup, ce film-là, il a eu deux suites et un remake. la première suite Robocop 2 de Irvin Kershner en 90, toujours avec Peter Weller et Nancy Allen, Dan O'Reilly et Robert Docky aussi, on retrouve un peu tout le casting du premier film. Robocop 3 de Fred Decker, lui en 93. Par contre, il n'y a plus Peter Weller. Par contre, il y a toujours Nancy Allen et Robert Docky. Mais du coup, c'est Robert John Burke qui a succédé à Peter Weller. Et un remake hein, en 2014, bah, qui s'appelle juste Robocop. Donc c'est vrai qu'on peut confondre les deux. Et réalisé par le Brésilien José Padilla. Sinon, il y a des influences, Blaude, pour ce film de Robocop.
Ouais. Donc, il y a des Edward Meyer. Il a eu l'idée de Robocop après avoir participé au tournage de Blade Runner en 82. Donc, les personnages Harrison Ford pourchasse étant aussi des hommes-machines.
Ouais, les réplicants. Donc, ça lui a donné de bonnes idées. Il me semble après qu'il a été même décliné en comics Robocop plus tard. Sinon au niveau du rôle de Robocop à la base, au niveau du casting, on avait Michael Ironside qui a été pressenti pour jouer le rôle d'Alex Murphy, mais il n'a pas été retenu en raison de son imposante carrure. Et qui était incompatible avec le costume de Robocop, forcément, fallait rentrer dedans. Mais bon, c'est pas grave parce que cet acteur-là, il a retrouvé plus tard Paul Verhoeven pour Total Recall et Starship Troopers. Idem pour Arnold Schwarzenegger. Schwarzy, il avait été aussi casté pour, on avait pensé à lui pour incarner Robocop, mais il était trop costaud aussi. Et
il n'aurait pas besoin d'armure.
Ouais. Ouais, c'était un Terminator, quoi.
Ouais.
Et on a eu aussi Rutger Hauer et Tom Béranger aussi, qui ont été auxquels on a pensé. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi au niveau de la... Ah oui, dans la tour de l'ECP. C'est le building Dallas City Hall. Qui se trouve du coup dans la ville de Dallas. Bah, sinon on a quelques scènes manquantes par rapport au scénario d'origine, Blood.
Oui, à la base donc Robocop devait retourner voir sa tombe et la seconde portait sur une poursuite en voiture qui devait amener donc Peter Weller à l'endroit où Murphy meurt et devient Robocop.
Ouais, mais bon, des fois après ça coûte. Je sais pas, c'est où ça apporte rien au niveau du scénario, enfin au niveau du rendu du film ou après peut-être.
Ouais, ça apporte rien de spécial, ouais, bon. Je sais pas.
Ouais. Et puis il faut dire que Paul Verhoeven aussi, il avait prévu, tu parles de là où Murphy meurt, bah, Paul Verhoeven avait prévu au départ une mort beaucoup plus sanglante hein, pour le personnage de Clarence Boddicker, parce que. Robocop, il devait lui planter donc sa pointe là avec laquelle il communique avec des terminaux d'ordinateur, etc. Ouais. Enfin, un terminal de communication. Celui, c'est son interface de communication. Voilà. Il devait lui planter cette lame-là directement dans l'œil. Mais bon, ça aurait giclé le sang et tout ça. Quoique ça gicle pas mal de sang aussi dans ce film-là, mais bon, il a pensé que la censure allait lui demander de changer la scène, donc il l'a pas tournée. Bon, faut dire aussi que la scène où Murphy il se fait exécuter, c'est. Bah si on va voir, si vous allez voir sur le blog, hein, là où je fais toutes les petites captures d'écran. J'essaye de prendre les meilleures scènes du film. On voit cette scène-là en capture, quoi. Et c'est vrai que c'est trash. Bon, allez, on se fait péter un extrait. Le dernier.
Entrez, monsieur l'agent. Vous savez que je ne reçois que sur rendez-vous, mais dans votre cas, je fais une exception.
Dick Jones, je vous arrête.
Oh, on m'accuse de quoi?
D'aider et de payer un tueur de flics.
À vous entendre, j'ai de graves ennuis. Vous me passez les menottes ?
Exactement.
monsieur le flic. Je vais vous dire ce qui vous arrive. Il y a en vous un verrou de sécurité. La directive 4, c'est ma modeste contribution à votre identité psychologique. Toute tentative de nuire à un dirigeant de l'OCP met votre système en panne. Est-ce que vous avez cru? Vous étiez un agent de police comme les autres. Vous êtes un produit de l'omnicartel des produits. Il vous est donc interdit d'agir contre vos maîtres. Oh. Encore un reste d'agressivité. Permettez-moi de vous présenter un ami. J'ai dû tuer Bob Morton parce qu'il avait commis une erreur. Il est temps aujourd'hui de réparer cette erreur.
Ouais, donc c'est un extrait quand Robocop il veut aller donc arrêter Richard Jones et que bah en fait il peut pas parce que Robocop il, dans son programme il a pour directive de ne pas pouvoir arrêter des membres de
l'OCP
et des flics etc. Donc du coup il est bloqué. Mais bon, ça va bien se régler de toute façon parce que à la fin, il se fait quand même buter par Robocop. Bah forcément parce que du coup, le président de l'OCP, qui s'est fait prendre en otage, on raconte la fin là, mais qui s'est fait prendre en otage par Dick Jones, le président lui dit qu'il est viré et du coup, de ce fait, comme il fait plus partie de l'OCP, et bah Robocop peut le flinguer. Et donc dans cette scène-là, du coup, ça fait chier Dick Jones que Robocop existe, et donc il envoie donc le ED-209 pour faire la peau à Robocop. Bon, qu'est-ce que nous on a aussi au niveau de la musique on a une musique de machine dans le film aussi. C'est la musique de Terminator. Où c'est le moment où le Terminator arrive sur Terre, enfin à notre époque. Du coup, et c'est présent dans le film Robocop. Et en fait, c'est volontaire, c'est un clin d'œil du réalisateur hein, au film de James Cameron. Donc du coup, parce que c'était en fait un petit clin d'œil point commun entre les deux personnages qui sont des machines à visage humain. Qu'est-ce qu'on a? Ah ouais, au niveau du costume, ça c'était chaud ça. D'ailleurs, ouais. C'était chaud, c'est le cas de le dire au sens propre. Ouais, le costume de Robocop, il était si lourd et chaud que Peter Weller a perdu jusqu'à 1,5 kg par jour à chaque fois qu'il le portait. Et donc du coup, ils ont mis un système d'air conditionné dans le costume. Ils ont installé ça dans le but de rendre les choses plus supportables pour le comédien, ouais, parce que je suppose qu'il devait pas porter ça que 5 minutes. Hein. Le costume de Robocop, il est estimé entre 500 000 et 1 million de dollars. Bon, pourquoi cette aussi grande fourchette, j'ai pas les détails, mais a priori, ouais, c'était un costume. Qui a demandé vraiment beaucoup de travail. Et donc du coup, ça en fait le costume le plus cher dans le film. C'est le costume qui était le plus cher dans le film par rapport aux autres. D'ailleurs, c'est de l'animatronique, hein, on le voit dans les déplacements de le D209, etc. C'est vraiment du image par image, quoi. Et on voit même Paul Verhoeven dans le film Blood.
Oui, il est en train de danser dans la boîte de nuit, et puis quand il y a Léon qui se fait arrêter.
Ouais, c'est celui qui regarde à un moment donné la caméra. Et on voit un gars qui regarde la caméra. De toute façon, la tête de Paul Verhoeven, bon, Google est ton ami. Hein, et sinon, il est sur le blog. Il y a sa petite photo que j'ai mis Il y a eu un changement d'actrice hein, de dernière minute. Stéphanie Zimbalist, qui devait tourner donc dans Robocop, mais la NBC lui demanda de ne pas le faire pour pouvoir tourner d'autres épisodes de la série Remington Steele. Donc du coup, bah, c'était elle qui devait faire Lewis. Mais ouais, c'est ça va bien, je trouve.
Ah oui, oui, oui.
Comme ça, c'est fait.
Je, bon. Je l'aime bien, Nancy, en plus.
Ouais. On a aussi une participation du producteur. C'est lui, bah, en VO, hein, du coup, qui fait la voix du robot ED-209. John Davison, c'est lui qui a fait la voix off. Et donc, du coup, pour rebondir sur le robot, donc, du coup, son corps, lui, il est inspiré par le dessin d'un hélicoptère et son apparence générale d'un jouet nommé Robotech. Donc, ils ont fait un mix des deux. Et bah sur la musique, Blood.
Oui, il y a une chanson, Show Me Your Spine, du groupe PTP. Donc, on peut l'entendre que dans le film, parce que c'est au moment où qu'ils arrêtent Léon, là, et ben, bah, c'est jamais sorti dans le commerce, cette chanson-là, donc on peut l'entendre que dans cette scène.
Ouais, ça fait un truc un peu techno-électro, un peu bizarre, comme ils ont essayé de faire des délires, comme en pensant ce que pourrait être la musique en 2000, comment
43.
On a dit ouais, c'est
43.
Ça. Et du coup, bah, pour finir, on a eu plusieurs réalisateurs hein, célèbres à Hollywood qui refusaient de réaliser le film, comme David Cronenberg ou Jonathan Kaplan. Et du coup, il y a que Paul Verhoeven, quand le scénario est arrivé dans ses mains, bah, il l'a jeté même à la poubelle après avoir lu les premières pages. Et parce qu'il pensait qu'il s'agissait d'un projet qui valait pas la peine quoi. Et puis du coup, c'est sa femme qui l'a convaincu de se lancer dans l'aventure en lui parlant un petit peu du côté satirique et allégorique de l'histoire futuriste quoi. Donc bah heureusement hein, merci à madame Verhoeven.
Heureusement qu'il est marié, ouais.
Ah, les femmes sont derrière de
ah ouais ouais ouais.
Derrière chaque homme, il y a une femme hein. Ben voilà, on a fait le tour un petit peu des trucs qu'on pouvait dire autour du film. Ben sinon, Blood, ben je te laisse la parole. Qu'est-ce que t'aimes ou que t'aimes pas de ce film-là ?
Ben, j'aime bien du fait que ça fait comme un cyborg, quoi. Comme j'aime bien les films, tu sais, où il y a des robots, ça fait un peu comme Terminator, tout ça, quoi. Puis ça fait un film policier, enfin, J'ai toujours aimé, la première fois que j'ai vu le film, ça m'a plu. Après, c'est bien quand il retrouve la mémoire grâce à la flic. Et puis, bah, sinon, quoi dire d'autre ?
Bon, bah, je prends la suite alors. Ouais, donc c'est vrai qu'au niveau tech, on va partir là-dessus. Qu'au niveau tech, c'est vrai que le jour où on arrivera à faire ça, on commence. Hein, et puis, je pense que d'ici une cinquantaine, voire une centaine d'années, ça sera encore. Plus avancé, mais c'est vrai que là, bah du coup, on oublie complètement la mort, quoi, parce que du coup, on devient des cyborgs. Bon, faut l'accepter. Bah, le transhumanisme, les hommes améliorés, etc. C'est des projets qui vont en ce sens. Là, du coup, il devient même pratiquement invincible hein, avec le corps qu'il a. Mais pour le coup,
conscience, pardon, je t'ai coupé.
Ouais, non mais ouais, qu'il ait une conscience. Mais pour le coup, justement, au début, il voulait en faire un objet contrôlé. Donc lui effacer la mémoire, sans conscience, donc qu'il exécute uniquement les ordres qui lui étaient dictés par les programmes qu'on lui injectait. Et après, il retrouve la mémoire. Il retrouve pleinement sa conscience et les actes qu'il fait et ouais ça du coup il reprend le dessus et je trouve que c'est mieux comme ça parce qu'il a un meilleur jugé et un meilleur raisonnement mais après c'est vrai que dans le fond après ce film là il est futuriste mais on voit que du coup il y a tout ce qui est banditisme, sécurité, etc. Ça a vraiment pris le dessus. Le film nous montre une ville qui est c'est pas super, c'est pas propre. C'est un peu pourri, dégueulasse, sale, tout ça quoi. C'est comme si par exemple tous les agents de nettoyage et même les agents de sécurité, plus personne ne voulait faire le taf parce que ça craignait tellement que genre on peut se faire liquider à chaque coin de rue, donc personne veulait dans la rue quoi. Et puis après tout ce qui s'ensuit, drogue, prostitution, trafic d'armes, après ça peut aller loin quoi. D'ailleurs tiens, dans le, je crois que c'est ce qu'il propose Dick là, comment il s'appelle, à Bodiker. Il lui dit que comme ils vont raser l'ancien Détroit pour construire une nouvelle cité, etc., machin, dirigée par l'OCP, va y avoir je sais plus combien, 4000 ouvriers, je dis ça de mémoire mais peut-être que c'est pas le chiffre exact, hein, 4000 ouvriers, et donc du coup ça donnera à Bodiker l'opportunité de faire tout ce qui est trafic de drogue, trafic d'armes, prostitution, etc., pour gagner du fric. Donc c'est carrément les dirigeants donc de l'OCP, mais donc du coup d'une, on va dire d'une entité qui est censée faire régner l'ordre et la loi, et là en fait il propose ça à un gars pour faire son petit business magouille et compagnie en off. Donc à croire qu'ils mettent ça en place pour dire derrière il y a de l'insécurité, va falloir faire des trucs pour renforcer les flics, parce que les flics dans le film ils se font buter. D'ailleurs Bodiker il est réputé pour être tueur de flics, et donc du coup les flics ils se font buter, on leur tend carrément des guet-apens, etc., pour les liquider. Et du coup c'est une bonne raison pour construire des robots, etc., machin, et ça leur permet de prendre le dessus une fois de plus quoi. En fait c'est de la manipulation purement et simplement quoi. Donc il y a tout cet aspect là, et puis on en voit un petit peu plus même dans RoboCop 2, parce que là c'est vraiment sur la transformation de Murphy en RoboCop. Mais même sur dans le 2 on voit un peu plus l'ambiance un peu de la ville, ça craint, la drogue partout. C'est un futur, c'est pas un futur clean en fait que Paul Verhoeven nous montre là quoi. C'est vraiment on aurait mal tourné quoi. Et j'ai rien d'autre à dire à part que c'est un bon film. J'ai eu plaisir à le regarder de nouveau.
J'aime bien quand il refait ses réglages là, quand il sait plus bien tirer.
Ouais,
ça c'est délire.
Chouette film à voir et revoir, je conseille. Et on a fini cet épisode 31. Nickel. Et j'espère vraiment qu'on se retrouvera plus vite dans le prochain épisode 32. On va pas attendre 4 mois pour le faire.
Ouais, ça c'est.
J'ai déjà ma petite idée pour le film, j'y pensais tout à l'heure. On va se quitter là-dessus après le générique de fin. Et en espérant que vous avez eu plaisir à nous écouter. Je vous donne rendez-vous dans l'épisode 32. À bientôt, ciao.
Ciao et bon film.
Vous êtes un excellent tireur, jeune homme. Vous vous appelez ?
Murphy.